nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Lui diras-tu? Je vais lui faire comprendre que ce que notre mariage a de ridicule et lui dire que je n'ai pas de situation majeure et que ma famille me déshérite si je me marie avec elle, qu'elle me répudiera et qu'elle ne sera pas reçue chez vous et que nous aurons une vie misérable et que je dis cela, c'est pour son bien. Le père lui demande, et toi, tu crois que ça va suffire? Elle va te parler du procès, dommage et intérêt. Je lui dirai que je ne pourrai rien lui donner, puisque je n'ai rien. Et en tant que personne majeure, ma famille n'a rien à y voir. Que si elle ne me croit pas, elle n'a qu'à faire une enquête. Le père lui dit, je souhaite pour toi que la fille, que la famille n'a rien à payer. Aucun frais de procès ou dommage et intérêt. Charles-André s'arrête de marcher et lui dit. Il lui dit, ce qu'il faut, c'est qu'elle me croie. Bien, tente le coup, et pas de scandale, qu'elle reparte sans que personne ne le sache. Charles-André, le lendemain, en fin de matinée, va à l'hôtel Le Savoie, qui est un grand hôtel luxueux. Il demande au concierge, « J'aimerais parler à Madame Sommet de Mise. Quel nom dois-je annoncer, monsieur ?» Charles-André Beaumandin, qui lui donne sa carte. Le concierge appelle un groom et lui dit allait à la chambre 601. Il dit à cette dame que ce monsieur désire la voir. Il donne la carte au groom. Après quelques minutes, le groom revient vers Charles André et lui dit « Veuillez me suivre, monsieur. » Charles André le suit. Ils vont au troisième étage, suivent le couloir et le groom va frapper à la chambre 601.
Entrez.
Le groom fait rentrer Charles André.
La pièce est vaste, un grand lit à deux places, table de nuit de chaque côté du lit, une armoire, une table de salon, une coiffeuse, deux chaises, un canapé. Elle est au milieu de la pièce, pas coiffée, en robe de chambre verte. Il la regarde avec dégoût. Elle s'approche de lui.
Bonjour, Charles André, je suis heureuse de te revoir.
Elle se pend à son cou pour l'embrasser. Il se dégage et la rejette d'un geste plus loin et lui demande « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?»«
Je suis venu te rappeler ta promesse. »«
Quelle promesse ? Je t'ai rien promis. »«
Et notre mariage ?»«
C'est toi qui as dit à tous que nous allions nous marier. »« Mais moi, j'ai jamais rien dit. »
Elle lui dit « Tu m'as dit que tu m'aimais. »«
Tu m'as forcé à le dire. » Il s'approche d'elle et lui dit « Je suis venu te dire de déguerpir, de foutre le camp, de disparaître de ma vie. J'en ai assez de toi. Je ne veux plus te revoir. »
« De quel droit tu me parles de ce comme ça, de cette façon ? Je suis dans mon droit, moi. J'ai un avocat qui peut te forcer à me donner des dommages-intérêts et même à nous marier.
Comme tu me l'as promis. » Il le regarde avec dédain et lui dit « Tu as tout manigancé, tirais ta toile, tu savais que ma famille avait des biens, vieille truie.
Tu t'imagines que tu vas pouvoir jouer les dames,
mais regarde-toi ma pauvre fille, regarde-toi. »
Il la prend par le bras et la pousse devant l'armoire à glace.
Tu vois comme tu es, tu vois l'air ridicule que tu as au milieu de ce décor. C'est pas n'importe qui peut avoir de la classe, du maintien, de l'élégance, du goût. Même avec tout l'argent du monde, tu ne saurais même pas t'habiller. Tu n'as aucun goût.
Il lui serre plus fortement le bras en la secouant.
Tu nous vois tous les deux, dis, tous les deux. On nous verrait, on dirait la maquerelle et son gigolo.
Avant de vouloir être une dame, il faut apprendre les manières, savoir s'habiller, se tenir à table.
Sais-tu éplucher une orange avec ton couteau ?
Il est en sueur, en nage. Il souffle un moment. Elle lui dit « Allez ma vieille, tu vas repartir et me laisser tranquille. »
D'un geste brusque, elle se dégage et lui dit
« Certainement pas. Ça te va bien de me dénigrer et de jouer les grands seigneurs.
C'était facile pour toi. Monsieur est né où il fallait, dans la dentelle. Et comme il n'a pas eu à travailler à l'âge de 9 ans, il a pu apprendre les manières. Mais moi, je me suis fait toute seule. Toute seule. Et ça n'a pas été facile. J'ai trimé. J'ai appris la vie. Pour moi-même. Et malgré que je travaillais, j'ai étudié et réussi à passer mes diplômes. Et je me suis marié. Avec un homme estimable, vieux mais estimable. Et maintenant que je peux avoir une vie tranquille, tu me la refuses ? Hein ? Tu me la refuses ? Non ! Puisque je suis dans mes droits, je reste et je demande réparation.
Ne t'en fais pas.
Si nous nous marions, je te laisserai tranquille. Du moment que j'ai de quoi jusqu'à la fin de mes jours. Il lui crie : Tu n'as pas honte ? De me demander de t'épouser alors que tes enfants ont le même âge que moi. Elle lui crie, c'est faux.
sang, je ne me marierai jamais avec toi. » Elle lui dit, « Bien, mon avocat sera prévenu. Déjà avec le scandale que tu as fait avec ton livre, tu es déjà jugé. » Il la secoue. Il la fait tomber. Penché sur elle, il lui dit, « Jamais, jamais, je serai enchaîné par toi. Jamais. » Elle lui dit, « Tu l'as déjà. » Il lui met la main sur la bouche. « Petite garce, tais-toi et serre !» Elle essaie de se dégager, mais il serre très fort. Elle a le visage tout rouge. En une seconde, ses deux doigts se desserrent. Elle réussit, elle lui mord la main. Aïe! Il se relève furieux. Salope! Il donne des coups de pied dans le ventre. Et sa fureur est tellement grande que d'un geste, il prend sur la table du salon un vase, il le jette à la figure. Elle ne bouge plus. Du sang coule sur sa tempe. Il se penche. Elle est inerte. Le visage rigide. Le corps sans vie. Il se redresse, range ses cheveux et sa tenue. L'a bien mérité, salope, vieille truie. Regarde autour de lui, une chambre d'hôtel. Il fait le geste de quitter la pièce et se souvient qu'il a donné son nom au concierge. Revient au milieu de la pièce. La salope, que faire? Elle m'a bien eu, même morte, je suis enchaîné avec elle. Elle lui donne un coup de pied. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, ma vieille. Réfléchissons. Il fait 100 pas dans la pièce pour réfléchir. Il va à la fenêtre. La fenêtre donne côté cour. Il y a presque à la même hauteur de la fenêtre le toit de l'immeuble mitoyen. Il se penche, regarde. Il doit sauter 1,50 m à peu près pour être sur le toit. Toit d'ardoise. Il laisse ouvert la fenêtre. Regarde sa montre. Il est 11h30, plein jour. Prend le cordon du rideau. Il va vers le corps. Se penche et entoure la taille avec le cordon. Salope, va. Il se relève. Quitte sa veste et va la déposer sur une chaise. Puis retourne vers le corps. Il se penche pour mettre sur ses épaules. Puis va vers la fenêtre avec le corps. Se dépose sur le rebord de la fenêtre. En maintenant le corps par la corde, il le pousse dehors et le corps tombe sur le toit. Vite, il monte sur le rebord de la fenêtre pour aller vers le corps. Une fois sur le toit, il tire avec le bras de la fenêtre. la femme jusqu'à une cheminée. Contourne la cheminée pour déposer le corps de l'autre côté pour qu'il ne puisse pas être vu. Plaque le corps contre la cheminée. L'attache avec la corde. Et entoure autour de la cheminée. Comme cela, elle ne risque pas de tomber car le toit est en pente. Ses efforts l'ont fait transpirer. Il tremble un peu, mais n'a pas peur. Il retourne en faisant bien attention, car c'est en pente vers la fenêtre. Là, il fait des bonds pour attraper le rebord de la fenêtre. À la troisième tentative, il y est arrivé. Une fois que les deux mains sont sur le rebord et le maintiennent dans le vide d'un effort surhumain, il se rehausse et se laisse glisser dans la chambre. Il tombe à terre, se relève, ferme la fenêtre et les rideaux. Ouf ! Il se dit, si on retrouve le corps, ce sera peut-être dans 20 ans. Il sera tellement décomposé qu'on ne pourra pas savoir qui c'est.
Il va dans la salle de bain. La salle de bain, il se regarde dans la glace.
Il est tout seul. Noir de suie. Il quitte sa chemise et son pantalon. Ouvre l'eau du lavabo. Boit l'eau à même le robinet. Mouille la serviette et se nettoie le visage, les bras et le torse. Il est tout rouge et essoufflé. La serviette est noire. Il la prend pour nettoyer ses chaussures. Puis, ouvre la fenêtre de la salle de bain et jette la serviette sale. Et sort de la salle de bain.
Épuisé, va s'asseoir sur un fauteuil.
Il a la tête vide, ferme les yeux pour dormir un peu, puis le noir. Le noir. Il se réveille, regarde sa montre, 15h, se lève.
Je peux ouvrir l'armoire. Trouve en bas de l'armoire un sac de voyage.
Il met dedans le sac les vêtements qu'elle avait mis dans l'armoire. Regarde la table de nuit, son livre, le tiroir, rien. La coiffeuse, il prend ses brosses. Son parfum, à terre ses pantoufles, regarde bien partout. Non, rien, tout a été pris.
Il se déshabille complètement. Il se met à la coiffeuse.
Il blanchit le visage, se met du rouge à lèvres, se rougit les joues. Jusqu'à présent, c'est pas difficile. Mais le plus dur, c'est de se faire les yeux. Aïe, ça pique cette saleté. Il y est à peu près arrivé. Il se met les cheveux bien en arrière, se blanchit les mains, se met du rouge à ongles. Il a les mains fines. Puis, il se met les sous-vêtements, une gaine qui devrait remonter les seins. des bas. Il enfile la robe. Il a choisi une robe sans décolleté. Et pour embourrer les seins, il s'est mis du coton. Ses gestes sont habiles et sûrs. Ensuite, il se met des boucles d'oreilles. Aïe ! Un collier, un bracelet, des bagues, et font pacotille. Retourne à la coiffeuse avec un chapeau à voilette noire. Il se le positionne de telle façon à ce qu'on ne peut pas voir la longueur des cheveux et les yeux. Juste le bout du nez et les lèvres doivent être vus. Et maintenant les chaussures. Aïe ! Sont pas à la pointure. Ils sont en talons hauts. Il faut essayer de marcher avec. Il fait quelques pas. Trébuche. Il y arrive petit à petit. Ça le grise de jouer à une autre personne. Ça l'excite. Il en oublie même le pourquoi. Il enfile le manteau et s'apprête à partir. Parce que tout à coup, il se dit, il faut payer l'hôtel. Et je dois tout prendre pour y mettre dans le sac. Vite, vite. Il met dans le sac toutes les affaires de la femme et ses habits. Maintenant, comment payer? Il regarde dans le sac à main. Ça n'a pas d'argent. Non, rien. Zut! Je vais lui dire que c'est M. Beaumandin qui va payer la note. Il va vouloir des garanties. Vite, il ouvre le sac de voyage.
Il va chercher dans sa veste une carte de visite. Ouf, il en a trouvé une, il la prend.
Une fois qu'il a refermé le sac de voyage, il va sur la table et écrit sur la carte à l'envers comme quoi le séjour est aux frais de M. Beaumandin.
Puis, il met le manteau rouge, prend ses sacs, le sac de voyage et le sac à main, et sort de la chambre.
Au rez-de-chaussée, il va vers le concierge, puis dit « Je suis Denis Solmet. Malheureusement, je suis obligé, c'est de vous quitter de suite, à cause d'une histoire de famille. » Le concierge la regarde bien et lui dit « Viens vous préparer la note, madame. » Elle lui répond « Comme je suis très pressé, vous donnez la note à monsieur Beaumandin. »
« Ah, mais madame, c'est impossible.
J'ai un mot de lui. » Il lui tend la carte de visite. Le concierge la prend, la lit. « Vous permettez, madame, je vais voir. » Il quitte la banque et va dans un bureau, au bureau du directeur. « Entrez !» Il explique au directeur la chose. Le directeur lit la carte de visite et lui dit « Je connais M. Beaumandin. L'on peut lui faire confiance. » Envoyez-lui la note de suite. Bien, monsieur. Il est retourné vers la dame et lui dit « Madame, tout est en ordre. Vous pouvez partir tranquille. » Marche pendant un moment. Prends un fiacre pour le mener à la gare. Prends un billet pour Monte-Carlo. Va aux toilettes femmes, s'enferme, se déshabille, se démaquille, se remet en vêtements et sort. Sac de voyage à la main. Va sur le quai. Lorsque le train arrive, rentre dans un compartiment vide. Mets le sac dans le porte-bagages. Sort du train et de la gare. Comme cela, on va croire qu'elle a quitté Lyon. Le soir, le père trouve la note d'hôtel, demande des comptes à son fils, qui lui dit « Je lui ai persuadé de partir. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement que de payer son séjour à l'hôtel. Elle n'avait pas d'argent. Et pour éviter un scandale qui pourrait nous nuire, j'ai payé. » Et de toute façon, nous en tirons un bon compte. Elle ne nous nuira plus. Comment as-tu fait ?
Je lui ai démontré le ridicule de son mariage. Le père lui dit,
c'est bien.
Le temps passe, on n'entend plus parler de Denise. Charles André n'a pas de remords de ce qu'il a fait. C'était de la légitime défense, d'après lui. Et puis, le plus dur, c'est de tuer. Une fois, après, on prend l'habitude. Ça peut même devenir passionnant de trouver la solution pour ne pas se faire prendre. Que faire du cadavre ? Vous direz, le remords, la morale. On peut avoir du remords si on connaît bien la personne. Mais si on avait de la sympathie pour elle, de toute façon, une fois que la chose est faite, on ne peut plus revenir en arrière. Alors il faut bien assumer son geste, chercher à ne pas se faire prendre. Et pour ce qui est de la moralité, c'est une histoire d'éducation, n'est-ce pas ? Et d'instruction. Alors l'éducation, ça s'oublie quand on le veut bien. Il y a une chose qui ennuie Charles-André, c'est son service militaire. Il n'aimerait pas y aller. Il le dit à son père dans son bureau. Voilà père, pourriez-vous faire quelque chose pour que je ne puisse pas faire mon armée ? Le père lui dit,
je ne suis pas spécialement un militariste, mais puisque tout le monde fait son service militaire, je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. As-tu une raison pour pas le faire ?
Il ose les épaules et lui répond. Tu me vois, moi, dans une caserne, au milieu de tous ces gens, pour la plupart des gens du peuple, perdu, perdre mon temps à des exercices idiots et manger de la popote ? Le père lui répond.
Je comprends, mais la France a besoin de soldats. Nous avons une revanche à faire. L'Alsace et la Lorraine à reprendre. Chaque Français se doit de se battre pour ces deux provinces prises par l'ennemi.
Je sais bien, père, mais vous me voyez, moi, avec un fusil,
comme tout le monde.
Alors, vous ne voulez pas m'aider à ce que je ne fasse pas mon armée ?
Tu te dois de servir la France.
Je peux la servir autrement, en écrivant, en diffusant la culture française au monde.
Avec tes histoires immorales, éditées en cachette et vendues sous le manteau.
Pour me racheter, j'ai créé une histoire d'un saint, Saint-Vincent. Et puis si l'on veut, je peux écrire une histoire patriote. Alors, vous voyez, je n'ai pas besoin de l'armée pour rendre service à mon pays. J'ai du travail stable et en plus j'écris. Si je fais mon armée, je perds mon travail. Le père hausse ses épaules et lui dit.
Pour le travail, pour ce que tu fais, ce ne sera pas une grande perte. Et puis tu pourrais t'engager.
Non, merci. Parce que faire mon armée dans une colonie, pour surveiller les colons et taper sur les indigènes,
tu pourrais être envoyé dans un département,
comme ceux de l'Algérie ou de la Corse, pour être reçu à coups de pierre, si ce n'est pas de balle. Non, merci. Celui qui a eu l'idée de faire de l'Algérie
un département est un imbécile et un criminel. Car un jour ou l'autre, elle va demander son indépendance. Et comme légalement c'est un département, on ne pourra pas lui donner. Car c'est comme si l'on donnait son indépendance au département du Rhône. Et comme les Algériens verront qu'on ne leur donne pas, ils vont se rebeller. Cela risquera de créer une guerre civile très meurtrière. Puis l'armée s'est battue contre les Parisiens. Je refuse de me battre contre des civils, qu'ils soient Algériens ou autres. Le père lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? L'Algérie va bien. L'on ne cherche pas à se battre avec elle. La preuve, on l'a enlevée du protectorat de l'armée pour la mettre dans le civil et en département. On met ses habitants dans le même pied d'égalité que les Français de métropole. C'est le plus beau cadeau que l'on peut faire. Nos enfants feront en quelque sorte la paix de la République française. Jean-André répond, cette paix ressemble beaucoup à la paix romaine, ce qui voulait dire que les Romains détruisaient l'ancienne civilisation, géraient les affaires et les lois et prenaient des esclaves. Le père écarissé lui dit, tu t'égares, je me moque des Romains et de nos colonies. Tu es venu ici pour parler de ton armée. Oui, père. Le père réfléchit et lui dit, je vois ce que je pourrais faire. Écoute, si tu ne la fais pas, il faut me promettre des sérieux. Je ne veux plus, tu entends, de ces histoires que j'ai eues à m'occuper ces derniers temps. Si tu as une maîtresse, fais en sorte à ce que la famille ne le sache pas. Si tu écris un livre scandaleux, fais-le sous un autre nom. Et je veux que tu travailles sérieusement, que tu aies une profession digne de ce nom. Bien, père. Bon. Je vais travailler. Tu vas travailler comme régisseur. Tu t'occuperas de faire rentrer les loyers. Tu peux commencer le mois prochain si tu veux.
Bien, père.
Bon, eh bien, je vais aller à Paris la semaine prochaine. J'irai au ministère de la guerre. Ils ne peuvent rien me refuser, c'est moi qui leur ai fourni les terrains pour les casernes de Lyon.
Merci, père.
Le père va au ministère de la guerre voir le ministre, qui est un homme de taille moyenne, cheveux dégarnis sur le devant et moustache noire. Il lui parle de son fils et lui dit, vous pouvez bien me rendre ce service. Vous avez eu les terrains grâce à moi.
Le ministre lui dit,
les terrains, bien, merci. Cela nous a permis d'encercler la ville pour maintenir les meneurs de troubles. Votre ville, avec ses canuts, ses rouges, la police ne suffit pas pour maintenir l'ordre. Avec les émeutes qu'ils font, la République ne peut tolérer ce genre de troubles. Nous défendons la justice, l'ordre. Notre devoir est de les maintenir et de maintenir le peuple. Nous voulons qu'ils travaillent, respectent les institutions, les mœurs républicaines et les notables. Nous leur donnons l'enseignement gratuit et laïque pour qu'ils puissent devenir de bons citoyens et être une bonne chair à canon. Nous avons une revanche avec l'Allemagne et à reprendre l'Alsace et la Lorraine. Le père lui dit, c'est pour cela que vous avez envoyé à l'école les petits Français pour en faire de la bonne chair à canon. Mon petit soldat, quand ils seront adultes, et pour les éduquer à la République en dénigrant l'ancien régime et la religion. En gros, vos écoles sont des lieux d'embrigadement des enfants pour la République. Le ministre lui dit, oui mon cher, et j'en suis fier, car avec ce système, il n'y aura plus de retour en arrière. La République sera sur de bonnes assises, car dès l'âge tendre, le citoyen apprendra les bienfaits de la République et les horreurs des autres régimes. Mais il aura aussi appris la fierté d'être français. Et le jour où le gouvernement décidera de les envoyer à la guerre, ils iront défendre les droits de leur pays fièrement. Voilà la politique de la République. C'est de préparer la guerre avec l'Allemagne. Et nous n'avons que cette politique-là. Le père lui dit, « Très louable, monsieur le ministre. Pour le peuple, voici une belle croisade que nous leur préparons. Mais il existe des genres... très peu de gens qui sont des plus utiles à la nation dans le civil qu'à l'armée et dont les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider leur pays. Je crois faire partie de ces gens-là. Et ne pourriez-vous pas, si c'est possible, exempter mon fils de l'armée? C'est un brave garçon. Il écrit quelques romans qui ont déjà été parus et qui ont eu du succès. » Le ministre lui dit, « Comme ce roman qui a fait scandale dans la bourgeoisie lyonnaise. » Parce qu'il était anticlérical, monsieur le ministre. Ce qui arrange vos affaires, puisque la République l'est aussi. » Le ministre lui dit, « Et immoral. » Le père lui dit, « À cause de la religion. » Le personnage l'est à cause de la religion, pas à cause de la République. Bien, passons. Vous voulez que votre fils soit exempté? Oui, monsieur le ministre, car il déteste les armes et a peur de tirer. Il est très sensible. Et que fait-il en ce moment? Il écrit une vie de Saint-Vincent. Après avoir écrit un livre anticlérical, c'est pour se faire pardonner. Vous savez, la province, Lyon, les prêtres sont encore... ont encore beaucoup d'influence, et si je me les étais mis à dos, adieu mes affaires, les trois quarts des terrains à Lyon leur appartiennent. Et même les terrains que je vous ai vendus, ils étaient à eux. Je n'aurais pas pu les vendre si mon fils avait été excommunié. Bon, très bien. Il faut savoir pactiser avec l'ennemi, qui d'ailleurs a le même ennemi que nous. Le peuple, un ennemi commun, ça aide pour les ententes cordiales. Bon, vous pouvez partir tranquille. Votre fils ne fera pas son armée. Un de plus, un de moins, ça ne se verra pas. Charles-André a fini son Saint-Vincent. En l'écrivant, il s'est mis dans la peau de ce saint. Et au fur et à mesure qu'il se purifiait, il a aimé cet homme et ce qu'il défendait. Celui lui apportait un plaisir extraordinaire. Il revivait l'époque, la fronde, les pauvres, les enfants abandonnés, la misère noire, la cour. Et ce petit homme têtu qui veut aider et rendre sa dignité à ces gens. Qui n'hésite pas à donner des coups de pied aux convenances du temps. Homme moderne pour son époque, à l'esprit très ouvert, et son idée de faire aider les pauvres par les pauvres. Oui, Charles-André a eu beaucoup de joie à écrire ce livre, et son esprit s'en est purifié. Les mauvaises langues vont me dire que pendant la période qu'il écrivait, cela ne l'a pas empêché de tuer Denise en l'injuriant et d'en avoir aucun remords. Je vous dirai oui, c'est vrai, puisque je vous l'ai dit. Mais il l'a tué pas en même temps qu'il écrivait. Et c'est le principal. Lorsqu'il l'a tué, il n'était pas dans le même état d'esprit. Étant donné qu'il n'écrivait pas, son esprit était moins en communication avec son livre. Et puis il a tué. Et ce n'était pas parce qu'il a tué qu'il devrait tout le temps y penser. Ce qui était fait. Et on ne peut pas revenir en arrière. Alors à quoi bon y penser constamment? Tandis que son livre, il ne l'avait pas fini. Donc, parfait, Donc il fallait qu'il y pense. Et puis, pour la morale chrétienne, c'est une bonne chose, car il a purifié son âme de criminel. C'est comme s'il avait fait une punition contre son péché. Et qui fait pénitence est sûrement pardonné. Donc, avec ce livre, il est redevenu pur et absous de tout péché et surtout de son crime. Crime accidentel, car si cette vieille truie n'était pas venue le faire chanter au mariage, il ne l'aurait pas tué. En fait, il a fait justice, car il l'a empêché qu'elle fasse un mariage blasphématoire ou chantage pour avoir la fortune de la famille. Grâce à lui, elle est au paradis, tandis que s'il ne l'avait pas tué, elle aurait été à sa mort en enfer. Donc Charles-André a sauvé une âme du péché et l'a envoyée directement au paradis. Si on regarde bien ce crime, sans qu'il ne sache, fait partie avec le livre de sa purification, comme l'on dit. Et puis de toute façon, on ne sait pas ce que pense Dieu. Ses pensées sont impénétrables. Donc notre Charles-André, après son chemin de croix, se purifie et devient un saint homme. Il n'a plus besoin de plumes ni de sa sœur pour la tripoter. En tout cas pour le moment. Une fois qu'il ait fini son livre, il le donne à lire à sa sœur et lui dit « Surtout ne le fais pas lire à Jules, je te le promets. » Elle lit le livre dans sa chambre. Que cette jeune âme qui ne s'est pas encore purifiée, elle le trouve ennuyeux. La vie d'un homme généreux, noble, ne l'intéresse pas. « Mon frère est devenu ennuyeux. » Elle va le lui rendre dans sa chambre. Frappe à sa porte. Entrez. Il est assis à son bureau. Elle va vers lui. Lui tend le livre. Tiens, comment le trouves-tu ?
Elle va s'asseoir sur une chaise à côté de lui.
Je ne dis pas que ce soit pas bien, mais ça ne m'a pas intéressé. Tu sais, tu ne vas pas devenir ennuyeux comme ces bigots et moralistes, il lui dit. Je ne suis pas ennuyeux. Tu as vu tout ce qu'il a fait, cet homme? Je me sens tout petit devant lui. J'aimerais avoir sa force. Elle lui dit, pour faire la charité, je ne te vois pas en petit curé. Surtout, si moi je partage ta vie, j'aimerais mieux que tu restes comme tu étais. Il lui dit, j'étais rien, et je vivais pour moi. Nous vivions cachés à cause de notre péché. La lumière nous était interdite. J'en ai honte de t'avoir fait vivre comme ça. Elle se lève furieuse et lui dit, eh bien moi non, je ne regrette rien. Je n'aime pas. Je t'aime pas quand tu parles comme un saint. C'est bête et stupide. Ce livre ne t'a pas plu alors. Je ne dis pas ça, mais c'est le sujet qui ne m'a pas plu. Tu aurais pu continuer dans la lignée de l'autre, il lui dit. J'aurais tourné en rond dans le sordide. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'ennuie. J'ai hâte de mener une autre vie. Je rêve d'un voyage à travers l'Europe. Mais il faut que je trouve un compagnon de voyage. Il lui dit, moi je ne peux plus, je suis obligé de travailler sérieusement pour remercier mon père de m'avoir épargné l'armée. Elle lui dit, c'est dommage, la vie à la caserne aurait pu t'apporter quelque chose. La vie aux communautés a ses charmes aussi. Il lui dit, pas pour moi, je préfère rester civil et aider mon père. Et tes romans?
père dit que je pourrais continuer, elle lui dit. Dans tes bons dieuseries, il lui répond. Sûrement pas. Mon prochain roman sera l'histoire d'un secret.
Oh, raconte.
Eh bien, voilà. Un jeune homme rencontre un romancier qui lui dit que dans son œuvre se trouve un secret littéraire, que personne ne l'a vu et que celui qui le verra aura découvert la chose la plus importante qui soit. L'écrivain n'en dit pas plus. Le jeune homme lit tous les livres de l'écrivain. Il y cherche un point commun ou quelque chose. Ne trouve rien. Cela l'agace et relit plusieurs fois l'œuvre. Rien, rien. À force de chercher, il s'énerve. Les livres de cet auteur qu'il aimait, il n'en trouve maintenant aucun plaisir. Ils deviennent fades, sans intérêt. Il parle de cette histoire à un de ses amis, qui lui dit que de son côté, il va chercher. Plusieurs mois plus tard, son ami lui écrit comme quoi il est sûr d'avoir trouvé la chose et que c'est une chose merveilleuse. Mais pour en avoir le corps net, il décide d'aller voir l'écrivain et de lui parler de sa découverte. Le jeune homme est fou de curiosité. Il attend avec impatience la réponse. Elle vient. Il écrit que l'écrivain lui avait dit qu'il avait trouvé. Le jeune homme attend le retour de son ami pour lui demander ce qu'il a trouvé. L'ami a un contretemps. Il épouse une jeune fille et malheureusement, quelques mois après le mariage, il meurt d'un accident. Le jeune homme est effondré, lui qui s'attendait tant à apprendre le secret de l'écrivain. Il se dit que c'est perdu. Le temps passe, et un jour il fait la connaissance de la veuve. Il sympathise, il se dit que peut-être que son mari lui a dit le secret. Comme il la trouve charmante, il sympathise et cherche à la courtiser. Elle se laisse faire, n'ose pas lui parler, lui poser la question. Malheureusement, la jeune fille est courtisée par un autre jeune homme. Et la jeune fille apprend au jeune homme qu'elle se marie avec l'autre. Le jeune homme est effondré. Il se dit que le secret, c'est l'autre qui va l'avoir. Il se marie. Le mari de la jeune fille publie un livre sur l'écrivain, mais il n'y a rien d'intéressant. Le temps passe. Un jour, le couple a un accident. La femme meurt. Le jeune homme sympathise avec le veuf. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.